Héroïne du quotidien. Elle s'appelle Aïcha, Marie, Françoise, Brigitte, Zora, Juliette, Odile, Litmès, Thérèse. Vous ne les connaissez pas ? Peut-être n'avez-vous jamais entendu parler d'elles. Mais sur le quartier de Bellevue, elles sont là. Elles inventent, elles soutiennent, elles créent du lien, elles posent des limites, elles militent, se bagarrent, font du beau, du bon, du bien, et la plupart du temps, sans le clamer sur les toits. Ce sont des héroïnes du quotidien.
Farida, bonjour.
Oui, bonjour Angèle.
Et qu'est-ce que c'est pour toi une héroïne ?
Ben, une héroïne, c'est quelqu'un du quotidien. C'est quelqu'un qui a vraiment pas l'air extraordinaire. Donc c'est qui, c'est quoi ? C'est une femme déjà, puisque apparemment vous l'avez conjuguée au féminin.
Ouais.
Donc c'est une femme qui a le courage d'être, qui a le courage d'être elle-même. Alors après, ça peut être, elle peut se représenter sous plusieurs formes. Hein. Ça peut être, tu vois, une mère de famille monoparentale ou avec un conjoint ou qui travaille, qui se fait des doubles journées, ou qui recherche du travail ou qui est sur un travail très précarisant. Tu sais, ces fameux travails où elles doivent être invisibles, comme les femmes de ménage, ou qui essaye juste de vivre ou de survivre, quoi. Donc, qui va devoir aller au Resto du Cœur ou à la banque alimentaire et joindre les deux bouts.
Et pourquoi héroïne, alors, dans ces cas-là ? Qu'est-ce qu'il faut d'héroïsme pour ça ?
Bah, déjà, il faut abandonner toute velléité de... Faut abandonner tout orgueil, quoi. Tu vois, faut vraiment lâcher l'orgueil et puis... Et puis souvent elles font ça pas pour elles. Elles sont souvent plus responsables d'enfants. Et souvent elles font ça pour leurs enfants, quoi. Après, une héroïne, ça peut être aussi une femme célibataire ou en couple qui a décidé de pas avoir d'enfants dans une société où on te détermine par une grossesse. Ça peut être ça aussi, à contrario, une héroïne. Hein. Donc pour moi.
Est-ce que t'en connais, toi ? Est-ce que t'en as dans ta famille ? Ou est-ce que quand t'étais petite, t'as rêvé à une héroïne en particulier de film ou de...
Bah dans l'atelier, on n'a que des héroïnes, déjà.
D'accord.
Ouais, c'est critère de sélection, donc... donc elles ne peuvent pas le marquer sur le CV, parce que du coup, bah, tu comprends, elles seraient trop sollicitées. Donc voilà, donc elles sont très discrètes sur leur double capacité ou sur leur double vocation. Et après, au niveau de la lignée, oui, les femmes chez nous étaient assez héroïques, mais voilà, après...
Héroïne du quotidien.
On est où ici ? C'est quoi ici ?
Alors ici, on a l'atelier d'insertion des femmes en fil. Donc l'objectif de cet atelier, en fait, c'est d'aider des personnes donc à pouvoir s'insérer et à trouver un travail de façon durable, pérenne, ou tout du moins un travail dans lequel ils et elles puissent s'épanouir.
Qui a un rapport avec la couture.
Rapport avec la couture ou pas de rapport avec la couture.
D'accord. Hein,
parce qu'il y en a beaucoup qui sont arrivés à la couture par dépit, puisqu'on est quand même dans un pays apparemment de matière grise, où, si tu veux, on est encore en 2021 à dénigrer les sections professionnelles. Hein, le général est encore en train de dénigrer le professionnel. On n'arrête pas de le voir avec des élèves qui sont en stage chez nous en découverte ou en bac pro. Ouais, voilà, je suis en couture parce que de toute façon, on ne savait pas où mettre. Donc, si tu veux, la couture et les travaux et les travaux manuels sont encore quand même très sous-estimés. Hein. Il y a eu un boom du maçon dans les années 2000 avec le boom de l'immobilier, où là, tout à coup, on s'est mis à regarder les maçons avec plus de respect. Mais bon, en attendant, les jeunes, eux, quand ils sont en troisième et qu'il s'agit de leur orientation professionnelle, on est quand même encore en train de leur dire, écoute, t'es quand même drôlement intelligent pour aller en bac pro, ce serait dommage que t'ailles en bac pro. Donc voilà, donc ça c'est déplorable. Donc il y a quelques personnes qui sont arrivées ici par voilà, parce qu'on ne savait pas quoi en faire, parce qu'on n'a pas
mais
été capable.
Mais vous faites quand même essentiellement de la couture, hein?
Oui, on fait essentiellement de la couture, oui, bien sûr. Mais après, la couture, ça peut être aussi un prétexte, un support pour reprendre goût à la vie, pour reprendre un rythme, une hygiène de vie, pour prendre conscience de ses compétences, de ses qualités, pour apprendre à démystifier l'échec, pour sortir du jugement sur soi, sur les autres. Donc, si tu veux, c'est un prétexte, la couture. Après, ça a des vertus thérapeutiques, donc ça c'est cette qualité-là, mais... peut-être que, enfin, assurément, on aurait pu faire de l'insertion avec n'importe
avec
quel autre support, bien sûr.
Et toi, alors, qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que c'est toi qui as créé ce lieu?
Alors, du coup, oui, c'est moi qui ai créé des femmes en fil. C'était une idée que j'avais eue en 2007-2008.
Donc, ça fait plus de 10 ans, 10, 12, 13.
Oui, voilà, 12 ans, oui. Donc, j'avais gagné un concours en juin 2008. Voilà. Puis après, ma sœur m'a rejoint pour remonter l'atelier, puisqu'elle avait des qualités que moi je n'avais pas à l'époque. Et puis après, entre-temps, je me suis suffisamment formée pour avoir ces qualités-là. Donc
ce lieu-là, il existe depuis plus de 12 ans.
Oui, voilà, depuis le 27 février 2009.
Tu as rencontré des obstacles?
Ah oui, beaucoup, a lot of... Là, pour être arrivé là où on en est, il a vraiment fallu avoir une cape d'héroïne avec un masque par moment pour pas qu'on nous reconnaisse.
Ah oui.
Oui. Il a vraiment fallu batailler parce que l'insertion des femmes en particulier, c'est pas spécialement un objet très sexy.
Surtout si en plus c'est des femmes qui s'occupent de...
Oui, en plus. Alors là, et puis en plus, t'as le nom dans le titre de la structure, t'as le mot femme. Alors là, c'est aussi très peu gênant. Mais voilà, à force de persévérance et surtout d'un soutien quand même assez inconditionnel de la mairie de Nantes, on a réussi à pouvoir cheminer jusqu'à l'agrément association chantier d'insertion. Qu'on a eu un mal fou à avoir, non pas par rapport à notre compétence, mais peut-être plus par rapport à peut-être le contenu du public.
D'accord, ah ouais. Donc quand ça s'adresse aux femmes, c'est quoi? C'est parce que ça intéresse moins?
Ça coince, bah, parce que du coup, on n'est pas sur les lignes politiques qui sont la parité. Bah, et la parité, du coup, c'est soi-disant, ça doit être positif, mais c'est aussi discriminant, parce que du coup, un projet pour les femmes, bah, ça exclut la parité. Donc ça gênait pour ces critères-là, et puis peut-être pour d'autres critères dont on s'en fout complètement, parce que c'est le passé, puisque maintenant on a notre agrément, donc ce qui est passé, donc moi je ne reviens pas sur le passé. Mais c'est vrai qu'il a vraiment fallu être très persévérante pour arriver là où on en est à...
Et l'idée dès le départ a été d'installer cette asso.
Moi, je me suis installée dans le quartier en 2003. J'avais pris un petit rez-de-chaussée. Tu vois, j'avais à l'époque, je ne savais pas coudre. Et tout ce que je voulais, c'était être couturière. Et c'est vrai que ce n'était pas très bien vu à l'époque. Et donc, du coup, bah, je m'étais dit, allez, tant pis, soit je vais devenir couturière et je vais me former toute seule. Donc, j'avais trouvé un petit rez-de-chaussée, un ancien atelier chez Nantes Métropole Habitat, dans un immeuble qui n'existe plus, parce qu'il faut que tu saches que tous les ateliers que nous avons occupés ont trépassé, ils ont tous été rasés.
Héroïne du quotidien, un autre regard sur le quartier.
Au début, quand j'ai vu cette idée d'atelier éthique, je pensais vraiment que ça pouvait se faire que dans l'hémisphère sud, c'est-à-dire Afrique du Nord, tu vois. Je pensais vraiment que c'était forcément comme tous les modèles d'ateliers éthiques qu'on voyait en Inde, à l'autre bout du monde, etc.
Ah oui, au début, tu avais pensé le faire...
je pensais le faire en Algérie, voilà. Et puis après, Yasuna, elle m'a dit, mais pourquoi tu ne le fais pas en France? Et oui, c'est vrai, pourquoi je ne le fais pas en France? Et puis après, bah par contre, à chaque fois que j'expliquais le projet, on me disait mais non, mais c'est pas possible, ça ne peut pas exister en France, c'est pas voilà, oui, c'était assez drôle. Et c'est vrai que tous les financeurs qu'on allait démarcher et tout, nous disaient bah non, nous on a des lignes de financement pour l'étranger, pour les ateliers éthiques, c'est en Inde. Voilà, c'était toujours ce qu'on entendait. Alors qu'on disait, mais c'est vrai qu'en France, il n'y a pas ni pauvreté, ni précarité, ni c'est vrai. On est... Pourquoi on a eu cette idée-là? Et puis après, voilà, de fil en aiguille, ça a quand même fini par prendre. Ça a fini par prendre. Donc du coup, à terme, en fin mai, ils seront 9 en production. D'accord. De l'autre côté, là où il y a les machines. Et puis l'équipe permanente encadrante, on est 4. Donc il y a Johanna, la chef d'atelier, qui vient de passer. Chloé Lila, la responsable administrative. Bérénice, la CIP, qui est la chargée d'insertion pro. Et moi-même, la directrice, Farida. Et puis après, on a un autre projet à côté qui s'appelle Acal 2 Créateurs. Un projet qu'on avait créé en 2012 avec Yasmina, et donc il y a un lieu d'exposition sur l'île de Nantes, au pied de la Grue Jaune, voilà, où là elles sont 2.
Ah oui, c'est séparé complètement.
Ben ouais, parce que c'est dans l'esprit des financeurs, c'est pas très cohérent. Enfin, tu vois, c'est soit t'es dans l'insertion, soit t'es dans la couture, soit t'es dans le culturel, mais tout ça, c'est pas, voilà.
Ça peut pas être non. Tout. Non, ben non, il faut.
Mais c'est sous la même. Voilà, c'est sous la même asso, mais. Mais en tout cas, c'est séparé. Les équipes sont séparées.
Les femmes qui viennent ici, qui viennent travailler ici, elles restent combien de temps en général?
Écoute, ce sont des contrats. Alors jusqu'ici, on avait des PEC. Et maintenant qu'on est en ACI, on a des CDDI, des contrats à durée déterminée d'insertion. Et donc, c'est 24 mois renouvelables 3 fois.
D'accord.
Voilà.
Ouais, donc, il y a vraiment le temps de se...
Oui, de s'insérer, de reprendre confiance en soi, de monter en compétences. D'acquérir un savoir-être pour être prêt pour aller vers le monde merveilleux de l'entreprise.
Vous avez un fonctionnement tout à fait pro, c'est-à-dire que vous avez des vrais clients et
On a des vrais clients avec qui payent avec des vrais sous, et puis on a une vraie équipe avec des objectifs à atteindre, et puis un taux de correction fluctuant en fonction de leur état interne.
C'est quoi le taux de...
taux de correction, c'est tu refais, tu refais, et non, c'est pas encore parfait.
Ouais.
Voilà. Donc c'est vraiment viser l'excellence, que le résultat soit impeccable, et qu'on puisse entendre des clientes comme la cliente qui vient de partir, qui nous disent que tout c'est... que là, elle est dans sa phase test, et que toutes les personnes lui ont dit que le produit était vraiment impeccable. Voilà. Donc c'est ça l'objectif.
C'est dans quel genre? C'est tissu forcément ou ça?
Non, on fait on travaille des voiles de montgolfière, parce qu'elle est capitaine de montgolfière, mais après on travaille des voiles de bateaux pour d'autres clients, pour nous notamment. Donc on fabrique des sacs en voile de bateau, et puis voile du cuir, de la bâche publicitaire, et puis après tous les tissus, tout ce qu'on peut faire avec une machine à coudre, on le fait, quoi.
Héroïne du quotidien.
Alors avant, on avait des collections de femmes, vêtements féminins, on avait 2 collections par an et tout ça, et on a vraiment réduit la voilure. Donc moi je peux trouver des marchés, voilà, où c'est du goodies, donc c'est de l'objet publicitaire en éco-matière, mais on est sous-traitant, on est façonnier, on fabrique pour les autres. Voilà, on fabrique pour les autres, et surtout pour les créateurs qui sont sur des petites collections et qui militent pour le Made in France, parce que la confection prêt-à-porter, c'est quand même un secteur sinistré. Donc du coup, tout est en délocalisation pour ce qui est de la confection, et que en délocalisation et à très 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 peu cher, à bas coût, et avec une concurrence déloyale. Donc les gens qui viennent nous voir sont vraiment sur un positionnement très
volontaire.
Ouais, très volontaire, très militant et très concret, quoi, avec des valeurs.
Ça veut dire que là, le côté éthique, il est à tous les niveaux, c'est-à-dire à la fois dans ce qui se passe ici, dans l'atelier, et à la fois dans les gens qui travaillent avec vous, c'est aussi des gens qui ont décidé de travailler avec des matières.
Oui, bah avec surtout un processus où ils savent que l'humain est au cœur du processus de production, ce qui n'est vraiment pas souvent le cas, sauf dans le monde du luxe, mais c'est vraiment pas du tout le cas en délocalisation. L'humain, il passe après la production. Et souvent, ils en meurent. Hein. Donc, quand tu vois l'immeuble Rana Gaza au Bangladesh, ou juste les agriculteurs qui font du coton bio en Inde, ou du coton tout court, et ils en meurent, quoi. Voilà, parce que tout est empoisonné, tout est au coût de la vie, quoi. L'humain.
Vous, les matériaux sont aussi des matériaux que vous choisissez pour étant, quoi, de l'art
Bah, on est sur une forte base de recyclage, déjà. Ouais. Plutôt que d'être dans la destruction, c'est redonner une seconde vie à. C'est redonner une seconde vie à la matière plutôt qu'elle soit brûlée, voilà, et que ça vienne polluer la couche d'ozone, mais ou enfouie, ou...
Tu veux dire qu'il y a beaucoup de matière...
Bah, les bâches publicitaires, par exemple. Surtout que la Textiloupe, qui était un des seuls recycleurs avec une vraie traçabilité, à fermer. Donc voilà, donc du coup, oui, il y a beaucoup de matériaux qui malheureusement se retrouvent dans des bennes, alors qu'ils pourraient être valorisés et avoir une seconde vie, et ça éviterait qu'à l'autre bout du monde, on fabrique un produit à base de pétrole, aux dépens de vie humaine, et qu'on empoisonne les gens et qu'on les rende malades pour qu'à l'autre bout du monde, nous, on ait notre petit confort, quoi.
Héroïne du quotidien.
Qu'est-ce que c'est la chose dont tu es le plus fière ?
Je suis heureuse qu'on en soit là où on en est, qu'on puisse vraiment remplir notre mission d'entraide. Et que ce dont je suis fière, c'est quand les gens sortent et que du coup, ils arrivent à trouver un job, le job qui leur corresponde, et qu'ils puissent atteindre la liberté à laquelle ils aspiraient. Voilà, ça, c'est vrai que ça me rend assez fière. Mais c'est vrai que, en général, c'est vrai que je ne suis pas trop à me...
Quand même, tu es en train de dire qu'il y a quelques années, tu dis 2009, tu étais en train de te dire, bon, je vais être couturière, mais...
Ça, c'était 2003.
2003.
Je vais être couturière, mais 2003, personne...
Je vais être couturière, mais je ne suis pas encore formée. Bon, mais je vais...
Je vais y arriver, oui.
Et puis, voilà, on est 2003, 2019, 2021. On n'est pas si loin, c'est pas si loin, quand même.
Ouais, ça fait 15-16 ans.
Ça fait 15-16 ans. En 15-16 ans, ça fait quand même un sacré parcours, non ?
Oui, alors après, on peut pas être tout le temps dans le sacrifice et puis le surplace. Après, ça s'appelle la folie, en fait. Quand tu recommences toujours un truc qui marche pas, c'est... faut changer de formule, quand même. Enfin, c'est... voilà, donc...
donc là, tu trouves ton compte, quand même.
Oui, bien sûr. Oui. Non, bien sûr. Tu verras dans la salle de coupe... dans la salle de pause, il y a un papier que moi j'ai affiché, qui sont les 10 secrets pour avoir de l'énergie après le travail. C'est: est-ce que j'aime ce que je fais ? Qu'est-ce que mon travail m'apporte personnellement ? Et qu'est-ce qu'il apporte aux autres ? Et voilà, et qu'est-ce qui s'est passé de bien aujourd'hui, sympa, etc. Et puis après, il y a plein d'autres petites d'autres astuces. Donc effectivement, je suis satisfaite de là où on en est. Et j'ai encore d'autres envies, d'autres ambitions pour que le projet prenne d'autres dimensions. Après, j'ai pas du tout envie d'être une énorme ACI, mais voilà, j'aimerais qu'on se développe plus et qu'on puisse aider à venir en aide à plus de personnes. Mais chaque chose en son temps. Il faut d'abord, avant tout, stabiliser le socle financier pour pouvoir après... continuer à aider.
Est-ce que tu penses que l'entreprise, l'aventure là, telle que vous l'avez développée, c'était plus difficile en étant une femme ou pas ?
Non, je ne les ai pas sentis. Non, franchement, non. Les handicaps, je les ai sentis dans mon enfance parce que t'es impuissant, mais après, très vite, j'ai su en faire une force. Donc non, la différence, ça a été une force. Donc après, voilà. Donc non, j'ai pas...
Qu'est-ce que tu dirais à une petite fille à propos de ça, d'être une héroïne ?
Avant tout, à une petite fille, si je devais parler à une petite fille ou à ma petite fille intérieure, c'est... Je sais pas, le terme d'héroïne, ouais, c'est ça, enfin, je sais pas, moi, c'est ose être toi-même, point, quoi, c'est tout, et le courage d'être toi-même, et puis le reste, c'est tout suivra, tout se passera bien si tu crois en toi, quoi, voilà, c'est ça, la véritable force, c'est de croire en soi, peu importe ce que les autres vont te dire, les découragements, parce que c'est plus souvent des découragements que des encouragements, mais... Voilà quoi, mais c'est que tout est possible. De toute façon, si tu as la foi, voilà, et si tu crois en toi, tout est possible. Tu peux tout faire, tout renverser, tout chambouler, tout est possible.
Merci Farida.
Mais je t'en prie, je te remercie pour tes questions pertinentes.
C'était les héroïnes du quotidien. Prise de son, interview. Angèle Goduchou. Montage, mixage, habillage sonore, Michele Batan. Création musicale du générique, Balthazar Baudin. Une production de la compagnie La Lune Rousse.